France Inter.
Ce soir, nous partons loin dans le passé et nous y restons parce qu'il y a un géant, encore un, qui vient de tomber. C'était il y a 47 ans, déjà en 1978, un des grands frissons de cette année-là, Non-Alignment Pact, soit le pacte des non-alignés, le titre par lequel démarrait un album que signait un groupe nord-américain qui portait étrangement un nom français, Père Ubu. Alors oui, évidemment, ils prononçaient ça Père Ubu. Je vais essayer de garder la prononciation, sauf quand les fois où j'oublierai, hein, histoire de faire un peu VO. Et ce groupe donc venait de la ville industrielle de Cleveland, au bord du lac Erie, hein, pas loin de la ville de Détroit. L'album de Père Ubu, donc, s'appelait The Modern Dance, et il faisait entendre une musique, une voix, eh bien, dont un des objectifs, parmi d'autres, était de mettre l'auditeur mal à l'aise. Son chanteur et parolier David Thomas, vous l'avez entendu, psalmodiait, glapissait, couinait, enfin tout ce que vous voulez, mais il ne chantait pas à proprement parler. D'ailleurs, il considérait qu'il n'avait aucune oreille et qu'il ne chantait pas tout à fait juste, même pas du tout. Et comme avait dit de lui un de ses camarades au sein de son groupe, David Thomas n'a jamais considéré son absence de compétences musicales comme un obstacle. Voilà qui est parfaitement dit. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ce soir ? Eh bien parce qu'on a appris à la fin de la semaine dernière la mort de David Thomas à l'âge de 71 ans, des suites, hein, comme on dit pudiquement, d'une longue maladie. C'est à Brighton qu'il est mort, il est en Angleterre, c'est là qu'il résidait depuis une trentaine d'années. Alors je ne vais pas le cacher, j'ai presque totalement perdu la trace de David Thomas depuis très 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 longtemps, depuis la fin des années 70 pour être honnête. Enfin je savais qu'il était actif, qu'il était même très productif, qu'il avait publié une infinité d'albums sous son nom ou sous celui de Paraboo, mais honnêtement, j'ai pas eu la curiosité de m'y intéresser. Assez vite, faut dire, il m'a perdu, David Thomas. Sa production était extrêmement touffue et, le plus souvent, faut le dire, déconcertante. Pour autant, je ne peux pas oublier que David Thomas, avec Paraboo, est un de ceux qui, sur scène, m'ont le plus durablement impressionné et marqué. Et j'ai même un souvenir extrêmement précis. Le premier concert de Paraboo à Paris, c'était au Gibus, en 1978, un soir de printemps caniculaire. Je crois que de ma vie, j'ai jamais eu aussi chaud au cours d'un concert. On était tous serrés là-dedans, comme je sais pas, mettons des poulets en batterie. Et on a attendu des heures interminables, sans ventilation, sans pouvoir boire une goutte d'eau. Il y a des gens qui ont dû s'évanouir là-dedans. Et puis je sais plus, au juste, sur le coup de minuit sans doute, est arrivé sur scène un très gros type en costume noir avec un petit bouc qui avait plus une tête de tueur en série que de chanteur punk. Il me faisait vaguement penser au personnage de M. le Maudit dans le célèbre film de Fritz Lang au début des années 30. Un personnage en noir et blanc, inquiétant, menaçant, imprévisible. Je le revois à un moment pendant le concert brandissant une enclume, enfin une petite enclume, ça devait quand même peser son poids ce truc-là, et la cognant avec un marteau pendant une chanson qui s'appelait « Final Solution », la solution finale. On l'entendra d'ailleurs ce soir et je peux vous dire que c'était punk, c'était plus punk que punk même, c'était théâtral, destructif, vertigineux. J'avais 19 ans et c'était la fin du monde, inoubliable. Alors Paraboo, ça a commencé en 1975. En 1975, absolument personne en France, enfin à ma connaissance, ne possédait le premier 45 tours de Paraboo publié à compte d'auteur à Cleveland. On a découvert ce titre 3 ans plus tard, en 78, un titre qui s'appelait « Heart of Darkness » dans une compilation intitulée « Data Panic in the Year Zero ». « Heart of Darkness », bah oui, comme le titre du court roman de Joseph Conrad, traduit en français sous le titre « Au cœur des ténèbres ». Vous savez, l'odyssée du capitaine Marlowe à bord d'un bateau à vapeur hein, sur le fleuve Congo à la recherche du mystérieux Monsieur Kurtz ou Kurtz, je ne sais plus. Une des sources du film de Francis Ford Coppola, « Apocalypse Now », c'est bien connu. Enfin, chez Paraboo, c'était une autre sorte d'apocalypse. Yeah.
France Inter, Mishka Assayas.
Dragon lost in time, a skimming waves of an underground sea, in some kind of dream world fantasy. On a canopy, 25 a racing by a bright green sea. Ahead the dim blur of an alien land. No time to give ourselves to strange hearts and in the sky, reaching twisted claws on every side. No place to run, no place to hide. No turning back on a suicide ride. city streets crawling through my sides and sprouting clumps of mushrooms like the world surreal. But this dream won't ever, ever end, and time seems like it'll never be again.
30 seconds in a one-way ride, 30 seconds in a place to hide, 30 seconds in a one-way ride.
Seconds over Tokyo, 30 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 seconds over Tokyo. 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 30 seconds over Tokyo.
Comme un groupe de rock psychédélique qui aurait totalement dévié de son axe, c'était le groupe Père Ubu en 1975 dans un titre qui s'appelait 30 Seconds Over Tokyo, 30 secondes au-dessus de Tokyo. À l'origine, c'était le titre d'un film de guerre réalisé en 1943, un film patriotique américain adapté du récit d'un pilote de chasse, le capitaine Lawson. Quelques mois après l'attaque aérienne japonaise de décembre 1941 sur Pearl Harbor, dans l'archipel des îles Hawaï, je rappelle que ce raid avait détruit toute la flotte américaine et poussé les États-Unis à entrer en guerre, eh bien le capitaine Lawson avait participé à la mission Doolittle, une mission de représailles sur le Japon, et ces 30 secondes sur Tokyo sont celles où Lawson avait largué ses bombes donc sur la capitale japonaise. La chanson de Père Ubu n'a strictement rien de patriotique, puisque dans ce titre, David Thomas et son groupe évoquent plutôt une mission suicide, kamikaze, un one-way ride, un aller simple dont le pilote ne revient pas. Alors le titre que vous avez entendu est tout à fait étrange, tout à fait bizarre, il n'est pas forcément du goût de tout le monde, de toutes les oreilles en tout cas, et la voix de David Thomas est plus celle d'un comédien de théâtre, ou du comédien d'ailleurs dans un film, au cinéma, que d'un chanteur de rock, y compris punk. Et vous l'avez entendu, il y a d'étranges sons derrière, des espèces de grésillements parasites comme émis par une radio d'autrefois. Ils étaient dus à un synthétiseur de la période, un synthétiseur modulaire de marque EML, une compagnie nord-américaine qui avait été fondée par des ingénieurs du Connecticut. C'est une compagnie d'ailleurs qui a cessé d'en fabriquer dès l'année 1976. Et le musicien qui actionnait ce synthé au sein du groupe Père Ubu s'appelait Alan Ravenstein. Je me rappelle, il se tenait sur le côté, il avait une grosse tignasse bouclée, pas du tout punk, en fait il avait l'air de sortir plutôt d'un groupe hippie. Alors en fait, Père Ubu se tenait dans une zone étrange, intermédiaire, entre une espèce de rock psychédélique oppressant et répétitif et une espèce de néo-rock'n'roll acide et anguleux qu'on commençait déjà à appeler « New Wave ». Étrangement, Père Ubu a cohabité dans ces années-là, et il était même mis sur le même plan que des groupes comme les Talking Heads, les B-52s, Devo, un groupe qui venait également de l'état de l'Ohio industriel, ou encore XTC en Angleterre. Il y avait cependant quelque chose d'autre chez Père Ubu, de plus sombre, de plus oppressant, qui venait en grande partie du groupe allemand Can, que David Thomas connaissait bien. Alors, j'évoquerai tout à l'heure la manière dont Père Ubu s'est formé, mais je voudrais d'abord évoquer la préhistoire du groupe parce qu'elle est très intéressante. En fait, à l'origine de Père Ubu, il y avait un autre groupe du nom de Rocket from the Tombs. Le premier créé à Cleveland par David Thomas. David Thomas qui se faisait alors appeler, allez savoir pourquoi, Crocus Behemoth. Crocus, le mastodonte. Faut dire, c'est vrai, il était particulièrement mastoc. Un groupe, Rocket from the Tombs, auquel a participé un certain Gene O'Connor, bien plus connu sous le nom de Cheetah Chrome, c'est-à-dire le futur guitariste d'un groupe qui allait faire les beaux jours du punk rock à New York, les Dead Boys, du chanteur Steve Bates. Les Dead Boys, eh bien Joey Ramone, le chanteur des Ramones, avait été le premier à repérer ce groupe dans la ville de Cleveland. Il en a parlé à Johnny Thunders des New York Dolls, et Thunders les a fait venir, ces Dead Boys, à New York. En tout cas, Rocket from the Tombs n'a pas eu une existence très, très durable. Le groupe s'est séparé en 1975 et il n'a diffusé aucun enregistrement de son vivant, hormis une cassette pirate. Et pour vous dire la vérité, je ne suis pas totalement sûr de la période de l'enregistrement de cette reprise par Rocket from the Tombs de Strychnine, un classique des Sonics, un légendaire groupe de rock'n'roll du nord de la côte ouest des États-Unis dans les années 60. S'agit-il de l'exhumation d'un ancien enregistrement ou au contraire d'un témoignage de la réunion, parce qu'il y en a une au milieu des années 2000 de Rocket from the Tombs avec autour de David Thomas, l'ancien guitariste des Dead Boys, et puis aussi le second guitariste de Television, Richard Lloyd. Difficile de trancher, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt la seconde solution qui est la bonne, mais enfin, je n'en mettrai pas ma main à couper. En tout cas, Strychnine, cette reprise des Sonics par Rocket from the Tombs, va vous donner une idée de la singularité, du caractère unique de David Thomas quand il chantait du rock'n'roll, ce qui, parfois, lui arrivait.
Ok. À côté, ça fait l'arsène.
Okay. Dream, son of a producer, ain't no loser.
soon. Root from some cartoon. Things will be different there. The sun will rise from here. Then I'll be 10 feet tall. And you'll be nothing at all. Yeah, I got my time machine. I got my electronic dream. Time to do some. Ain't no loser.
Forcément, enfin forcément, je sais pas, peut-être vous avez entendu ça au moins une fois dans votre vie, Sonic Reducer par les Dead Boys, le titre par lequel démarrait leur album de 1977 au parfait titre punk, Young, Loud and Snotty, jeune, bruyant et morveux. Alors comme je vous disais, les Dead Boys comptaient à leur début un guitariste du nom de Gene O'Connor qui avait fait ses débuts au sein de Rocket from the Tombs et son pseudonyme, son alias était Cheetah Chrome. Rocket from the Tombs, oui, le groupe qui dans la ville de Cleveland allait servir de matrice au plus expérimental Perubu. Alors ces trois groupes en fait, Rocket from the Tombs, les Dead Boys et Perubu, n'auraient pas existé sans une sorte d'étoile filante, un certain Peter Lachter, qui est resté un des rares exemples, il y en a franchement très peu, de critiques de rock qui se sont lancés avec talent dans la musique. Lui, c'était comme guitariste, un très bon guitariste, il a failli d'ailleurs à un certain point prendre la place de Richard Lloyd au sein du groupe Television. On dit même de Peter Lachner qu'il a été le catalyseur donc, de tout ce circuit punk de Cleveland. Inspiré par les écrits du grand critique Lester Bangs, qui écrivait pour le journal Cream à Détroit, Lachner a aussi, hélas, imité très tôt, beaucoup trop tôt, les mauvaises habitudes de ce dernier. Et il est mort extrêmement jeune, à 24 ans, en 1977, des suites de ses excès divers, notamment en alcool et en amphétamine. Peter Lachner a eu le temps de jouer un rôle fondamental dans le premier album de Perubu, The Modern Dance. En tout cas, ça a été un choc pour moi quand j'ai découvert cet album à sa sortie au début de l'année 1978. Et comme souvent, durant cette période si nouvelle, où la musique populaire se transformait en passant par des espèces de métamorphoses spasmodiques, j'étais pas franchement sûr d'aimer ce que j'écoutais. En tout cas, pas tout de suite. J'étais, comme on dit, dérangé dans mes habitudes, dans mon confort. Mais je sentais que c'était aussi nouveau, aussi tranchant que les Talking Heads ou que Devo, deux groupes phares de la première New Wave. David Thomas avait en effet cette voix typique de la période, étrange, étrange, comme horrifié par tout ce qui l'entourait, une voix qui était comme perdue quelque part entre le dégoût et le fou rire. Tout ne me plaisait pas dans cet album de Perubu. Il y avait des passages beaucoup trop dissonants, trop free jazz pour mes oreilles plutôt sages. Faut dire que David Thomas était clairement un disciple de Captain Beefheart et lui et ses camarades de Perubu souhaitaient que leur musique dérape vers des zones où ça grinçait, ça dérapait, ça roulait sur les jantes et ça se renversait pour mieux se relever. En fait, David Thomas au sein de Perubu se tenait quelque part entre la voix glapissante de David Byrne au sein des premiers Talking Heads et les agressions acides de James Chance, un saxophoniste qui à New York se tenait dans une zone de son invention entre free jazz, violence punk froide et performance d'art contemporain autodestructrice. Voici deux titres tirés de l'album The Modern Dance, signé donc par Perubu, paru au début de l'année 78, The Modern Dance et Chinese Radiation, un hommage ce soir dans Very Good Trip sur France Inter au début de David Thomas au sein du groupe Perubu.
She leaves early. They'll never know. Man, the man,
missing out.
Chinese Radiation, un titre signé en 1978 par le groupe Perubu, qui figure dans son album The Modern Dance. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas dite et je m'en rends compte vraiment avec le recul. Vers la fin de l'année, de l'été 79, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai acheté le premier album de Joy Division, Unknown Pleasures, et je me suis plongé dedans. Et au début, ça a pris du temps, j'ai été déconcerté, je ne savais pas trop si j'aimais ça ou non, mais je suis devenu assez vite obsédé, hanté par cette musique, j'arrêtais pas d'y revenir pour m'en imprégner, et peu à peu, la force extraordinaire de la musique de Joy Division m'est apparue. Alors, des critiques anglais mentionnaient les Stooges de Iggy Pop, que je ne connaissais pas trop, pour dire la vérité, pas plus que le groupe allemand Can, que j'ai découvert par la suite. Moi, quand j'ai entendu Unknown Pleasures, j'ai entendu vraiment deux influences évidentes qui me sont apparues. Certains titres rock'n'roll sombres de John Cale, en solo, et puis aussi, c'était pour moi une évidence, Perubu. C'était franchement la marque la plus forte qui existait dans la musique de Joy Division, c'était l'influence de Perubu. D'autant que Alan Ravenstein, le clavier au sein de Perubu, il était également saxo, a utilisé certains sons très concrets à la façon du réalisateur artistique Martin Hannett auprès de Joy Division, notamment le bruit de bouteilles brisées dans le studio, par exemple. Et donc, je me suis mis, avant même d'écrire des articles, à prêcher la bonne parole à propos de Joy Division en disant à mes proches, tu verras, c'est quelque part entre John Cale et Perubu. Alors j'ai lu hier un témoignage touchant de Philippe Garnier dans Libération. Lui, il y a 50 ans, il vivait déjà à Los Angeles, il écrivait dans Rock and Folk des articles qui inspiraient une sorte de respect sacré, et Garnier s'occupait activement d'expédier en France, au sens vraiment matériel et concret du terme, des cartons de 45 tours sortis par des indépendants, et on trouvait ces 45 tours au compte-gouttes chez certains magasins de disques à Paris, au Havre, qui était sa ville, et puis à Rouen aussi. Tout comme d'ailleurs le premier 45 tours de Patti Smith, c'est grâce à Garnier qu'on a pu le connaître, Peace Factory, autant où strictement personne n'avait entendu parler d'elle. Philippe Garnier avait expédié le 45 tours que Perubu avait publié à compte d'auteur en 1975, Heart of Darkness, couplé à 30 Seconds Over Tokyo. Deux titres qu'on a entendus tout à l'heure. ça a été le début de ce qu'on peut désigner, vraiment une fois n'est pas coutume, comme un vrai culte en France. Hein, pour une fois, le mot n'est pas galvaudé. D'ailleurs, on peut trouver sur le site internet français Ubu Dance Party une profusion de documents et d'informations sur David Thomas et Père Ubu. Garnier raconte que David Thomas, Crocus Behemoth, c'était comme ça qu'il continuait à l'appeler, lui avait dit qu'il avait choisi le nom du personnage d'Alfred Jarry, un Père Ubu, parce que, alors je cite David Thomas, on était sûr que ça ne dirait rien à 95% du public. Dans son éloge funèbre, le critique du New York Times, John Perelis, cite des propos de David Thomas évoquant ses très lointains débuts à Cleveland, une ville où il ne faisait apparemment pas très bon vivre. Philippe Garnier parle, dans l'article de Libération d'hier, je cite, « de torchères et souffleries sidérurgiques au bord du fleuve Cuyahoga », il me semble que c'est un fleuve plutôt que de rivière d'ailleurs, un mot Cuyahoga qui signifierait dans un dialecte amérindien « le fleuve tordu hein, ». Le fleuve Cuyahoga qui était réputé si pollué, écrit Garnier, qu'il était souvent sujet aux combustions spontanées de produits chimiques. Bref, Thomas venait de là, et je vais le citer, « Venir de Cleveland, c'est une malédiction. Mais si personne n'aime ce que tu fais, et que personne ne l'aimera jamais, et que personne ne te verra jamais, eh ben, tu es libre. Tu fais absolument ce que tu veux. » C'est à méditer.
Sur France Inter.
De Perubu Final Solution à la solution finale. Alors, quand David Thomas chantait ça de sa voix si particulière, suraiguë et instable comme celle d'un vieillard, une très bonne formule que j'emprunte au critique de cinéma américain Kent Jones, un proche de Martin Scorsese et adorateur de Perubu, eh bien, quand David Thomas chantait ça, il s'accompagnait d'une enclume, hein, pas trop grosse, hein, et d'un marteau. Je vous en ai parlé, je l'ai vu de mes propres yeux. Je cite une partie des paroles de Final Solution, ça vaut le coup. Les filles ne veulent pas de moi à cause de mes problèmes. Et vivre la nuit ne va pas arranger mon teint. Tout indique que c'est une infection sociale et s'éclater un peu, ça ne fait pas une insurrection parce que j'ai pas besoin d'une solution finale. Plus punk, c'est difficile. Comme vous pouvez l'entendre, David Thomas savait écrire. Ce soir, alors, j'ai fait qu'aborder ses débuts éclatants, hein, quand Paraboo a été, comme je vous le disais, un groupe qui comptait autant que les Talking Heads ou Joy Division. En deux mots, David Thomas avait grandi dans un foyer dans lequel comptaient l'art et la poésie. Son père enseignait la littérature et sa mère peignait. Et la suite de la vie et de l'œuvre abondante de David Thomas, j'ai évidemment pas eu le temps de les aborder ce soir. Il faudra que je prenne le temps justement de les explorer. Ça peut pas se faire en une demi-journée. L'œuvre de David Thomas est considérable, elle est immense. Hein, près de 20 albums avec Paraboo, sans compter les lives, presque autant en solo, avec des musiciens de premier plan qui ont pu l'accompagner, comme le guitariste anglais Richard Thompson, ou d'excellents batteurs, je pense au New-Yorkais Anton Fear, qui faisait partie des Feelies, ou encore à l'anglais Chris Cutler du groupe Henry Cord, excellent batteur de jazz. Son camarade Alan Ravenstein avait dit de David Thomas, je cite, « Il était comme un laboureur qui creusait son sillon, il travaillait tous les jours, le soir il était vanné et il n'en a pas tiré de gros bénéfices. » Voici pour un ultime hommage ce soir à David Thomas, un titre extrait du deuxième album de Paraboo, Dub Housing, qui est sorti à la fin de l'année 78, une sorte de punk free jazz inclassable qui, c'est mon humble avis, n'a pas pris une ride. Navi comme un terrassier. Et voilà, c'est par ce titre Navi, signé par le groupe Paraboo en 1978, extrait d'album Dub Housing, que nous nous quittons pour ce soir un ultime hommage au regretté David Thomas, qui fut donc le chanteur, parolier et visionnaire de Paraboo. Demain, tout autre chose, ce sera du R&B et du swing moderne. Ce sera un programme très cool en cette veille de 1er mai. Il me reste à remercier chaleureusement Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, comme d'habitude. Merci également à Rémi Sistiaga qui était à la technique ce soir. Merci également à Guillaume Cohoner et Romain Couturier.